Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, je vous propose que nous fassions une lecture dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Chapitre 2, c'est un texte que nous connaissons bien, mais peut-être que nous avons bien encore à y retourner, à nous imprégner de ces paroles qui nous sont laissées sur l'essentiel de la vie chrétienne, la foi, la grâce, le don de Dieu. Et c'est ce que nous allons tout à nouveau redécouvrir. Et ça s'adresse à ce que nous étions hier, ce que nous sommes devenus en perspective de ce qui nous attend et de ce que Dieu nous a préparé. Alors c'est quelque chose qui est formidable. Hier, j'étais perdu. Aujourd'hui, je suis sauvé. Et pour moi, m'est réservée une autre vie. Par-delà, eh bien, toutes les contingences de cette terre, il y a là quelque chose qui est en quelque sorte, eh bien, l'aboutissement de cet appel de Dieu, la grâce qu'il m'a donnée de croire. Je l'ai saisi par la foi. C'est devenu une véritable conviction maintenant, une vie nouvelle, tout simplement. Et nous vivons les uns et les autres, comme moi-même, dans l'espérance d'un monde, d'un ciel, du ciel, qui n'aura plus rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Dieu nous a ouvert les yeux. Et voilà ce qui nous est rappelé. C'était un grand thème de la Réforme, il y a à peu près 500 ans, à travers ces paroles qui ont été tout simplement remises, on pourrait dire en lumière, qui ont été portées devant le monde, un monde extrêmement religieux, le Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge. Où c'était plus que religieux, c'était véritablement une dictature de l'âme, des âmes, des esprits des hommes. Et puis voilà, ce moine que l'on appelle Luther, lui a redécouvert ce texte, et ça a été véritablement une révélation extraordinaire, puisque pendant à peu près 14 siècles, 15 siècles, on ne pouvait être sauvé que par les bonnes œuvres, en finalement gagnant son ciel, en achetant, en payant des indulgences, etc. Et vous rendez compte, entre le moment de Jésus, le moment où il est monté au ciel, il a été crucifié, monté au ciel, c'est passé 15 siècles où on a forcé un peu, c'est un euphémisme, où on a demandé aux hommes, si vous voulez aller au ciel, il faut faire des efforts, il faut se sacrifier, il faut se mortifier, il faut donner votre argent, il faut faire ceci, etc. Et là, Luther était un érudit, et quand il a lu ça, il a dit, mais on est vraiment, mais à côté, complètement à côté. Ce qui a fait, ce qui a donné ce que nous pouvons appeler aujourd'hui la réforme, le protestantisme, retour à l'écriture, sans passer finalement par le filtre des religions, d'une interprétation particulière. Alors on va le lire, vous allez voir, c'est très très intéressant, parce que quand on voit cette méditation mot après mot, on va voir que véritablement non seulement c'est pour nous, c'est un rappel de ce que l'on est, je vous l'ai dit, nous étions perdus, nous sommes sauvés, c'est une conviction, et Dieu nous prépare, là, une autre dimension pour chacun d'entre nous. Et il est dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais, et ça c'est véritablement la découverte, mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà ce qui a été découvert il y a maintenant 500 ans et qui est à l'origine finalement du monde évangélique, en revenant à l'origine, en revenant à la parole de Dieu. Combien nous avons dans ce message du Nouveau Testament d'exhortation par Jésus d'abord, et puis également quand il nous dit d'être enraciné, eh bien là au cep, parce que nous sommes que des sarments, hein, et quand nous entendons aussi les apôtres, et puis les écrivains de la Bible, qui nous montrent et qui exhortent, qui stipulent d'une manière tellement forte la nécessité de garder la parole de Dieu. Ça, c'est important. Et on en voit naturellement tous les égarements à travers tous ces siècles du christianisme, tant dans différentes appellations connues mondialement, et où nous apercevons que chacun y a été un peu de son interprétation, retranchant, ajoutant, discutant, falsifiant finalement ce que Jésus nous a dit et qui est une véritable simplicité qui est accessible à tous les hommes, ignorants comme savants, enfants comme vieillards, peu importe. Ça commence de cette manière. Paul dira, mais vous étiez mort. C'est pas quelque chose de facile à entendre, de dire qu'on est mort. Voilà. Mais vous étiez mort. Nous, on peut le dire sans qu'on soit offusqué, parce qu'on sait que nous n'avions pas la vie. Et on sait pourquoi nous n'avions pas la vie. Mais nous étions dans l'ignorance, comme les choses nous sont présentées. Et quand il y a ignorance, il y a miséricorde de Dieu. Le plus coupable, c'est celui qui sait et qui ne fait pas. C'est celui qui sait et qui ne veut pas, ce qui n'est pas notre cas. Mais c'est dans l'ignorance. Et c'est pour ça que Dieu, use de miséricorde avec ceux qui n'ont pas eu accès à la connaissance de la parole de Dieu. À ceux qui on les a trompés, on les a floués. On leur a dit toutes sortes de choses sur le message de l'évangile. Et je pense que Dieu use de sa miséricorde parce que on peut pas être coupable dans cette affaire. Il y a que notre conscience qui peut parler naturellement, qui fera peut-être la différence. Mais on sait que nous vivons aujourd'hui dans des temps qui sont assez extraordinaires. Par rapport à ces siècles, je vous parlais de 15 siècles, dans l'enfermement, dans l'obscurantisme, sous le joug de la religion, ou des religions, et de voir qu'à travers la publication ou la divulgation de la Bible en tant que page imprimée depuis Gutenberg, il y a eu véritablement à travers ces 4 siècles et demi, une prolifération de la connaissance. Et c'était encore un moyen qui n'était pas accessible à tout le monde. Premièrement, la Bible n'était pas traduite. Elle a commencé petit à petit à être traduite dans les langues verniculaires, c'est-à-dire les langues populaires. Et puis aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est quelque chose d'extraordinaire de savoir qu'il y a plus de 2400 traductions bibliques complètes, et puis avec des traductions de versions de la Bible, etc., etc. Qu'est-ce que nous voulons de plus? Et c'est peut-être justement là, avec Internet également, tout le monde peut avoir une petite tablette et avoir la Bible, donc on a remplacé le livre par la technique, ou la technologie, ou l'informatique, donc tout le monde peut avoir. Or, il semblerait que dans nos pays qui étaient les premiers, il y a de moins en moins de gens qui lisent la Bible. Alors que c'est là où nous avons le plus en plus la possibilité de nous procurer finalement la connaissance de l'Écriture. Alors vous étiez morts, dit l'apôtre, par vos offenses et par vos péchés. Alors comment expliquer ça, sinon que chacun est renvoyé à sa conscience, et je dirais que véritablement c'est une sottise de dire que nous sommes les meilleurs, que nous sommes les plus beaux, que nous n'avons jamais menti, que nous n'avons jamais péché et que nous n'avons jamais haï. Vous étiez morts par vos péchés et par vos offenses. Alors si c'est le livre qui ne le dit pas parce qu'on ne veut pas entendre ou on ne veut pas le lire, il y a la conscience. La conscience est la boussole. On sait très bien, qui que nous soyons, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est juste et ce qui est injuste, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors nous étions morts, naturellement, c'est la sanction, puisque le salaire du péché, c'est la mort. On le sait, c'est Paul qui le dit, c'est ce même Paul dans Romains. Et il nous dit donc, vous étiez morts à cause de votre rébellion contre Dieu. On n'a pas le sentiment d'être rebellé contre Dieu. On n'a pas le sentiment de le flouer ou tout simplement de l'ignorer. Non, parce que ça se passe tellement en douceur tout ça. Mais le fait de l'ignorer, le fait de l'indifférer, le fait de repousser cette idée que Dieu existe, c'est déjà finalement un péché qui donne la mort. C'est l'incrédulité, tout simplement. L'incrédulité. Alors, et il nous est dit que vous étiez morts dans ces péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, avant. Autrefois. Nous avons deux vies. Nous avons la vie avant Jésus-Christ et la vie après Jésus-Christ. C'est comme dans les livres d'histoire. Mais ça, c'est, bien sûr, on n'avait jamais pris garde à cela. Non? C'est quand on s'est converti, on s'est dit, mais il y a bien la preuve d'une vie qui a changé, non? C'est vrai. Parce que bon, c'est quelque chose qui doit être caractérisé, un changement de vie. Alors, c'est pas un changement de religion, parce que bon, on peut passer d'une religion à une autre, et puis, ça changera pas grand chose. On pourra dire, avant j'étais catholique, maintenant je suis protestant ou orthodoxe ou juif, ou enfin tout ce que vous voudrez. Mais, c'est pas notoire. Il n'y a pas eu un changement intérieur, on a changé seulement d'identité religieuse. C'est tout, hein. Alors, selon le train de ce monde, c'est-à-dire que vous faisiez comme tout le monde. Il y avait là un conformisme qui faisait que, et la marginalité ne plaît pas trop à l'individu, vous comprenez? Bien qu'il y ait des gens qui essaient de se singulariser vestimentairement parlant, à travers le langage, à travers des arts, à travers toutes sortes de choses. Et ça gêne personne. Mais en ce qui concerne les questions spirituelles, alors ça, on n'aime pas ça, hein. Parce qu'il y a le poids de la tradition, le poids de la famille, les rites, les choses qui sont à respecter, etc. Mais le monde vit avec ça, faut pas faire d'illusions, hein. Même dans notre monde laïque, on a encore ce genre de tradition et toutes sortes de choses. Alors, selon le train de ce monde, nous suivions, parce que il n'était pas de bon ton ou de bon genre, finalement, de dire un petit peu le contraire. C'était comme ça. Hein, et aujourd'hui, les hommes ont pris beaucoup plus de liberté dans notre société contemporaine. Mais pour ceux qui sont issus peut-être d'une certaine religion que nous connaissons bien, avec tout ce qui marquait les années, les jours, les mois, etc., etc., l'absence à certains offices, c'était pas une partie facile, hein. On était jugé, ou on pouvait être jugé en tous les cas. Et même, poursuivi ou condamné. C'est ce qui s'est passé dans les premiers temps de la réforme, hein. Quiconque n'allait pas ou ne se soumettait pas à l'obligation traditionnelle de la messe et de toutes sortes de choses était un proscrit, hein. Et voilà. Donc, nous marchions selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Donc il y a quand même une explication. D'abord le monde qui marche. Il marche, il ne sait pas où il va. Il marche parce qu'il est convaincu finalement là où il va et ce qu'il croit c'est bien. Ça ne peut être que la vérité. Puisque c'est la loi de la majorité qui fait loi. Enfin, c'est la majorité qui fait loi. Et on s'aventure pas dans des chemins, voilà. Hein, on s'aventurait pas en tous les cas dans des chemins qui étaient un petit peu solitaires. Selon le train de ce monde, mais derrière le train de ce monde, qu'est-ce qui fait marcher le monde avec ses modes, avec sa mentalité, avec ses slogans, avec tout ce que nous entendons encore aujourd'hui, parce que rien n'a changé, hein. C'est toujours la même chose, hein. Et plus que jamais, avec les médias, tout azimut, on conditionne les gens, on les conditionne d'une façon ou d'une autre, on les conditionne dans leurs pensées, dans leurs convictions. Hein, c'est souvent des options politiques ou sociales ou toutes sortes de choses. Mais c'est un conditionnement. Mais derrière la puissance de l'air, ça se voit pas. Il y a une puissance, c'est un vent, alors. Hein, il y a des coups de vent, on pourrait dire ça comme ça. Eh bien, il nous est même dénoncé qu'il y a un prince. Alors, qui est ce prince? Alors, on connaît le prince de la paix. On connaît Jésus, le fils de Dieu. On connaît Jésus étant le sauveur, le messie pour les juifs. Ça, on le connaît. Mais l'apôtre Paul, de qui veut-il parler? De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Cet esprit, alors il y a deux mots. Il y a d'abord cette élévation en dignité, prince. Mais ce n'est pas un prince du bien et de la lumière, c'est un prince du mensonge et des ténèbres. C'est comme ça qu'il est appelé. Prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant, c'est un esprit. C'est quelque chose qui est une séduction au niveau de la pensée de l'homme. De la pensée, le cœur, les sentiments. Du cœur, c'est aussi, eh bien là, à orienter notre volonté, dans le bien ou dans le mal, à travers toutes sortes de choses. La conscience qui est altérée. Donc un esprit qui agit, et il est particulièrement remarqué, parce que c'est là où il exerce son hégémonie, son pouvoir et son autorité, sa domination dans les fils de la rébellion. Alors il y a les fils de l'obéissance, on ne le trouve pas chez Adam, on ne le trouve pas chez Ève, on ne le trouve pas dans les descendants adamiques, ça c'est sûr. Mais il y a eu un changement, parce que on s'attraverse qu'à travers toute l'histoire biblique, ce qu'on appelle la révélation de Dieu aux hommes, à travers l'Ancien Testament, à travers ces grands hommes, comme Abraham, comme Moïse, qui n'étaient pas des hommes de la rébellion, mais des hommes de l'obéissance, par la foi. Par, finalement, eh bien, se soumettant à ce que Dieu dit, comme étant, eh bien, la source du bonheur, de la joie et de la paix, de la bénédiction de Dieu. Fils de la rébellion. si nous pouvons dire qu'aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose de très actuel, eh bien, nous n'aurons pas tort. Parce que des rébellions, il n'y a jamais eu autant. Ouais. Hein, les gens étaient soumis dans le passé parce qu'ils avaient la peur de l'autorité, d'un pouvoir de ceci et cela, et puis, on se chargeait bien, finalement, de les canaliser et puis de les remettre dans le rang, hein, quoi qu'il en soit. Quitte à faire à recourir à la violence et quelquefois même davantage. Hein. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on peut dire que on a beaucoup plus de liberté que n'en ont eu nos prédécesseurs, mais on s'aperçoit que cette liberté, on n'en fait pas forcément un bon usage. Contestation, provocation, caricature, humour qui est quelquefois tellement sordide. On comprend, hein, mais c'est notre monde d'aujourd'hui. Fils de la rébellion, avec des pensées qui sont des bombes idéologiques. Hein, soit elles sont politiques, soit elles sont, voire même religieuses, provoquant toutes sortes de choses. Et il y a derrière, non pas l'homme seulement, mais un homme qui se prête à tout ça, qui épouse, qui dit oui, qui dit, eh bien voilà, moi c'est ça ce qui me plaît. Voilà. Hein. Et on voit que le monde va de moins en moins bien. Enfin, il va de pis en pire. Et on s'aperçoit qu'on se demande où on va. Hein. Alors, le décor est posé, prince, esprit, fils de la rébellion, on voit un peu la nature du mal de notre monde, un monde sans Dieu. Vous étiez mort. Et l'ascension, c'est la mort, on l'a vu. Hein. Et puis, Paul parle d'une manière générale là, aux Éphésiens, qui étaient quand même des païens. Mais Paul est un ancien juif, hein, converti au christianisme. Et il dira, mais nous ne sommes pas acceptés, nous les juifs. Il dira, mais nous aussi. Et il pense certainement, eh bien, ce qu'il a été. Lui, c'était pas un païen, Paul. C'était un homme extrêmement zélé dans sa religion, dans sa foi en Dieu. Mais en quel Dieu croyait-il? Il croyait dans le Dieu d'Israël. Il croyait surtout dans le Dieu qui était présenté par toutes ces sectes religieuses telles que le pharisianisme, et puis il y en avait bien d'autres. Et il était convaincu mordicus que c'était sa religion qui le sauvait. C'était la loi, c'était les obligations qu'il s'était données à travers toutes sortes de traditions et de rites. Et il se disait, ben voilà, pour plaire à Dieu, ça ne peut être que comme ça. Et nous sommes, nous les meilleurs. Nous les juifs, finalement, eh bien, on est quand même le haut du panier, hein. Les autres, ce sont de vulgaires païens, hein. Et c'est vrai qu'il y avait toutes les preuves de paganisme, hein, à travers la déchéance, à travers des choses qui étaient épouvantables, abominables, telles que se livrer à l'occultisme et à des choses qui étaient absolument en abomination à Dieu. Alors, naturellement, la marche était haute, mais il pouvait dire que, on aurait pu dire aussi que les juifs se livraient aussi à l'occultisme et à la magie, toutes sortes de choses, bien que Dieu leur ait recommandé, tu n'auras qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, moi, le Dieu d'Israël. Alors, il dira, mais nous aussi, nous étions de leur nombre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul juste, il n'y a pas un homme qui soit saint, qui soit pur, qui soit au-dessus des autres, qui soit intelligent, qui soit sage, qui soit sans péché. Il va se mettre dans le lot, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, et là c'est un aveu, puisque vous étiez morts. Moi aussi, le juif Paul, eh bien, j'étais comme vous, mais nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, toutes les impulsions les plus basses, les plus sordides, qui n'étaient pas forcément visibles, mais qui étaient là au fond du cœur. C'est bien des réquisitoires que Jésus a portés contre les pharisiens en disant « vous faites les choses en douce, hein. Hein, vous avez là une bonne tenue extérieure, mais à l'intérieur de vous-même, ce n'est que de la fraude et de la rapine ». Parce que Jésus a été voir finalement, il a dénoncé le mal chez ces gens-là, ô combien religieux, à travers leur hypocrisie, à travers leur méchanceté, à travers leur esprit de domination, de rébellion contre Dieu. Et Paul est en train de dévoiler tout ça, selon les convoitises de notre chair, même si ces convoitises sont bien enveloppées dans le manteau religieux, même si elles sont bien emballées, voilà, hein, que ça paraisse bien comme ça à l'extérieur, et de vos pensées, et nous étions par nature. Et là, c'est quand même un point de doctrine important. Nous étions par nature. Nous étions tous les hommes par nature, finalement, des enfants, eh bien, de colère, de rébellion, de contestation, de rejet de Dieu, de rejet de ce qu'il nous a dit, de rejet tout simplement du salut. Et nous étions par nature. Donc, il y a deux natures. Il y a la nature d'avant Jésus-Christ, pour ça que nous étions morts. Et puis il y a une nouvelle nature qui va apparaître. Et cette nouvelle nature, elle apparaît dans la vie d'un homme, d'une femme, d'un jeune ou d'une personne plus âgée. Elle commence finalement à apparaître lorsqu'il y a une prise de conscience. Nous étions pécheurs. Et comment prendre conscience que nous sommes perdus, sinon la parole de Dieu qui va nous le dire et que nous allons accepter. Parce que, je peux vous dire depuis toujours, la parole de Dieu sanctionne le mal. Elle encourage le bien. Mais celui qui n'est pas disposé, il va se renfermer finalement, et bien, dans ses habitudes, dans ses traditions, se donnera toutes sortes d'excuses, de prétextes et de raisons, en disant, voilà, je vois vraiment pas pourquoi je changerais. C'est ma nature. Il y a des gens, quelquefois, qui, se récusent et qui disent, ah oui, c'est vrai qu'on leur fait la réflexion qu'ils ont mauvais caractère, ou autre chose, mais l'excuse qu'ils trouvent, c'est ma nature, je changerai pas. S'ils veulent pas changer, ils changeront pas, Mais il y en a un qui peut les changer, ils se changeront jamais eux-mêmes. Connaissez l'histoire du léopard avec ses taches, et puis l'Éthiopien avec sa peau noire. Il peut bien se passer au nitre et puis mettre de l'eau de javel autant qu'il voudra, ça m'étonnerait que ça changerait quelque chose. Mais ça, c'est pas les choses extérieures, c'est les choses à l'intérieur. Donc il y a une nature mauvaise et il y a une nature qui peut changer, qui peut véritablement être complètement modifiée par la grâce de Dieu si nous lui donnons l'autorisation. Nous étions autrefois de cette nature et nous étions morts parce que c'était une nature mortelle. Je l'ai dit, je le répète, le salaire du péché, c'est la mort. Sans que nous le sachions, devant le grand mystère que tous les hommes qui viennent sur la terre vont mourir, on ne se pose pas la question du pourquoi nous mourons. Nous mourons parce que la Bible nous dit que nous sommes des pécheurs. Mais, à partir du moment, et on l'a dit il y a un instant, du moment où nous avons entendu la parole de Dieu, une conviction de péché va se faire. Qu'est-ce que c'est une conviction de péché? C'est pas un apitoiement sur nous-mêmes. C'est pas des larmes de crocodile en disant « Oui, je me suis trompé, mais ce n'est pas seulement du regret ni du remords. » C'est quelque chose de très fort à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça ne peut pas venir, non pas parce que nous avons entendu un beau sermon, non pas parce que nous avons entendu quelqu'un qui nous a parlé de ceci et cela. Non, c'est la conviction du Saint-Esprit dans notre cœur. C'est ça. Il nous est dit que l'Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Vous avez quelquefois pensé à ce que ça voulait dire, ça? De péché? C'est que Jésus-Christ est mort pour nous, et c'est un péché de croire que finalement nous refusons de croire. Ça, c'est un péché, c'est le péché d'incrédulité. De justice, non seulement il s'est dit qu'il était notre sauveur et qu'il venait nous tendre la main pour nous sauver, mais de justice, c'est qu'il a rempli la justice de Dieu en mourant à notre place à la croix du calvaire. Conviction de péché, de justice et de jugement. De jugement parce que le diable a été vaincu le jour où il est monté à la croix. Le salut, c'est rien de moins que cela. C'est de croire que Jésus est venu de par Dieu dans son plan pour nous sauver. La deuxième chose, c'est que, à notre place, il a pris notre place, il s'est substitué à nous, et il est mort à notre place. Et puis le diable, à ce moment-là, est obligé de reculer. Il a perdu, il a été vaincu, il est sous les pieds de Jésus aujourd'hui. Conviction de péché, de justice et de jugement. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est pas le meilleur pasteur qui peut prêcher d'une manière extraordinaire. C'est pas lui. C'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre. Et là, à ce moment-là, nous pleurons. Nous sommes touchés par la grâce de Dieu. Nous pleurons sur nos péchés. Mais c'est une tristesse qui n'est pas une tristesse selon la mort, qui nous dit « je suis désespéré, c'est fini ». Non, c'est une tristesse qui se change en joie, parce que quelque chose est en train de changer à l'intérieur de nous-mêmes. Ouais, ça ne se voit pas, c'est la nouvelle naissance. Alors, par nature, mais nous avons changé de nature. Voilà, Dieu a entrepris quelque chose. Alors, pour les amis qui nous rejoignent et qui disent « mais je suis converti depuis un an, depuis 6 mois, ou des choses comme ça », attendez, c'est rien ça. Vous avez peut-être encore 50 ou 60 ans à faire, je vous le souhaite, mais néanmoins, c'est tous les jours où Dieu nous remet sur la table de travail. Et puis on réussit pas à tous les coups, quelquefois on dit « Seigneur, je te fais la promesse de ceci et cela », et puis à un moment donné, on retombe encore dans le même carcan. Mais le Seigneur est patient, il nous dit « Écoute, t'es mon enfant, d'accord ? Tu es mon enfant, tu m'as répondu, je suis ton père, je vais m'occuper de toi. » Ouais, pour nous martyriser. Mais Dieu ne baissera jamais les bras parce qu'il nous a choisis et il nous amènera jusqu'au bout si nous croyons. Ne perdez pas espoir, n'est-ce pas ? Eh oui, mais je trouve que c'est extraordinaire la vie chrétienne. Le message de l'évangile est un message extraordinaire qui nous donne véritablement des perspectives. Qu'est-ce que nous avions auparavant avec notre religion? Que du gris, que du silence, un silence de mort. Rien qui pouvait nous contenter dans ce que nous pouvions entendre. Une parole qui était la parole des hommes, qui était souvent des paroles culpabilisantes, rien de plus. Et on nous parlait beaucoup plus de l'enfer que du ciel. C'est bon, Eh oui. Alors, par nature. J'ai dit que nous avions changé de nature. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, et c'est là où les choses changent, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Combien de fois nous a présenté Dieu comme celui qui juge, celui qui qui va sanctionner celui qui nous attend là. Hein, tu n'es pas bien, tu n'es pas un bon garçon ou une bonne fille. Tu vas voir, quand j'aurai l'occasion, tu vas voir un peu ce que tu vas voir. Hein. Qu'est-ce que nous disons ? Devant la situation catastrophique d'un monde qui est perdu sous l'esprit du prince de ce monde, qui est dans la désespérance la plus complète, alors à ce moment-là, il nous dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde. On attendait peut-être, selon le vocabulaire des hommes, à des sanctions ou une condamnation, et voilà que l'apôtre Paul est en train de nous dire, mais Dieu. Et il est question de miséricorde. Miséricorde, ça veut dire tout simplement que Dieu comprend notre misère et il a vraiment son cœur pour nous aider, cordial. Il est en accord avec nous pour nous dire, eh bien, tu vas pas rester comme ça. C'est terrible, hein, d'être malheureux et de vouloir rester malheureux. On appelle ça de la complaisance. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de complaisance parce que les gens veulent pas changer de vie. Ils veulent bien croire en Jésus, mais ils veulent pas changer de vie. Mais le ciel, c'est déjà nous préparer pour une autre vie dans la perfection. Mais déjà ici-bas, il faut déjà accepter que le Saint-Esprit par son œuvre. Qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Si vous savez que si vous êtes ici, c'est parce que nous sommes l'objet de l'amour de Dieu. Et quand nous disons, mais Dieu ne m'aime plus, Dieu ne m'aime pas. Ah mais je l'ai entendu, hein. Au confessionnal. Non, non. Quelquefois en disant, mais il m'arrive rien, Dieu m'a abandonné. Non. Écoutez, quand on prend ces paroles et qu'on les médite, on n'a pas besoin de tourner 1000 pages de la Bible pour, mais seulement on se concentre sur ça. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, nous sommes aimés de Dieu. Ah ouais. Moi, je me sens aimé et pourtant je suis pas digne d'être aimé, hein. Franchement, je suis pas aimable. Hein. Non, mais. Non, mais c'est pas une question de civilité. Vous avez compris. C'est une question de savoir que chacun d'entre nous, nous restons encore des pécheurs, même si nous appartenons à Jésus. Ça vous arrive pas à avoir des petits, quelquefois, des petites folies, des petites fantaisies? Non? Oh! C'est magnifique! Moi, je me demande ce que je fais là, moi, ce soir. Au milieu d'une une superbe société que vous représentez, noble. Oh, c'est bien. Mais je continue quand même. À cause de son grand amour, nous sommes aimés. Dans l'épreuve, Dieu nous aime. Dans nos moments de joie et de bonheur, Dieu nous aime. Et il nous aimera jusqu'au bout. C'est écrit dans Romains chapitre 8 que rien ne fera défaillance à l'amour de Dieu qu'il a manifesté en Jésus-Christ. Vous y croyez, ça? Mais c'est formidable. Ça, c'est formidable. Nous qui étions morts. Vous voyez, l'apôtre dit, mais hé, attendez, vous n'oubliez pas ce que vous étiez. Hein. Nous qui étions morts, c'est-à-dire que nous sommes passés dans une transition. Voilà, à cause de la grâce, à cause de l'amour de Dieu, à cause de sa fidélité. Alors, nous qui étions morts par nos offenses, c'est répété et répété pour pas qu'on oublie d'où on vient. Nous sommes des rachetés, nous ne sommes pas des anges. Et on le restera jusqu'à la fin tant que nous ne serons pas délivrés pour aller dans une nouvelle dimension. Nous a rendus à la vie, voilà. On est passé de la mort à la vie. Il nous a rendus, c'est lui. C'est pas moi qui ai bricolé quelque chose en disant, ben maintenant, voilà, hein, je me suis pris ma petite philosophie piétiste, hein, ou tout simplement religieuse, et je me suis arrangé quand même. Non, c'est lui qui nous a rendus. Par la grâce, on le verra, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et ça, c'est, il faut se le dire tous les jours, tous les matins, ça aille bien ou non, qu'il y ait du soleil ou qu'il pleuve. D'une façon ou d'une autre, même si vous avez des difficultés dans votre vie professionnelle ou autre, c'est par grâce que je suis sauvé. Eh oui, et là je peux vous dire que ça vous donne ça vous booste, si je peux m'exprimer. Ah, ça vous donne un coup, hein, mais un bon coup. Quelque chose qui vous tonifie. Ça vous fait du bien, non, d'entendre ça? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, et le mieux, c'est qu'il nous a ressuscités. Ah, mort, perdu, offense, péché, manipulé par des esprits. Manipulé par le prince de ce monde, suivant finalement la corde de ceux qui sont perdus. Mais il nous a ressuscité. Non seulement il nous a rendus à la vie, mais de quelle vie? Pas la même vie, une autre vie, une vie spirituelle. Avant, nous avions une vie religieuse. Nous avions une vie de l'âme prépondérante. Ce qui a donné finalement, eh bien, le côté artistique pour certains, pour d'autres, hein, la capacité de ceci et cela, parce que l'âme, qui est quand même quelque part un peu une image. Nous avons été faits à l'image de Dieu par rapport aux animaux, si vous voulez aller par là. Mais là, nous voyons qu'il y a quand même une autre dimension C'est-à-dire que c'est la vie spirituelle, c'est plus la vie religieuse. Moi, ce que je souhaite, et ça c'est la poursuite et c'est mes prières, je souhaite que nos églises évangéliques, ouais, ne redescendent pas en bas dans la vie de l'âme, retombées dans les carcans de toutes sortes de choses et qui font que bon bah les gens ils sont pas heureux, ils tournent en rond, ils sont là tristes, ils sont blêmes, ils sont fades, il y a pas de perspective et en plus ils ont perdu leur conviction dans une autre dimension de vie, hein. Vous posez la question aux gens là qui prétendent finalement connaître Dieu et qui sont dans la prison du légalisme ou du traditionnalisme et dans tout ce que vous voulez, vous leur dites est-ce que vous croyez que vous allez au ciel? Ben ils vous disent j'espère et peut-être. Ben dites donc, on va pas loin avec ça, hein. Parce que c'est autre chose la foi, hein. C'est une ferme conviction, hein. Alors, il nous a ressuscités ensemble, parce que nous étions ensemble dans la perdition, et maintenant nous sommes sauvés ensemble. C'est faux, c'est beau, hein. Ça, c'est quelque chose. Et l'Église est la représentation de cet ensemble, quelque part. L'Église, elle est ensemble dans sa dimension locale, ici à Saint-Nazaire, enfin bon, peu importe. Mais nous sommes ensemble en communion d'esprit avec l'Église universelle. Alors, mes frères, mes sœurs qui sont là au Pakistan, qui sont là aux États-Unis, etc., etc., et je dirais même, l'Église universelle, ce sont tous nos frères et sœurs qui sont déjà auprès du Seigneur, hein. Et ça va faire du monde, hein. Non? Oh oui, ça va faire du monde, hein. Je peux vous dire que, hein, parce que nous avons tous la même identité, nous avons tous passé par la même expérience, nous avons cru en Jésus-Christ, il a changé, transformé notre vie. Ouais. Il a pardonné nos péchés, il faut pas l'oublier. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ressuscité ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Qu'est-ce que c'est d'être assis, hein? Ça va? Il y a que moi qui suis debout ce soir, et vous ne me plaignez pas, hein? Remarquez, j'aurais pu le faire, hein. Oui, oui, je sais, Myriam est en train de me dire, mais tu as pas pensé avant, et t'as vu qu'elle me le rappelait, qu'est-ce que tu veux, voilà. Hein? Surtout moi, grand malade, hein, alors, bon. Mais toujours est-il qu'il nous a fait asseoir ensemble, toujours la même chose. Et vous vous rendez compte que le siège de Dieu, le trône de Dieu est large, hein. Il va y avoir du monde, hein, là-haut, hein. Alors, n'allez pas vous mettre dans la tête qu'il faille faire comme Jean et Jacques, nous voulons être assis à ta droite, Seigneur, hein. Vous l'oubliez, ça, hein. Il y a de la place pour tout le monde de toute façon. Asseoir, c'est la position de repos. C'est la position, finalement, où l'on est bien. Voilà. Vous fatiguez pas, vous. Hein. c'est vrai que c'est plus facile d'être assis que d'être debout. Hein. Voilà. Mais toujours est-il que nous sommes là dans... Et nous sommes assis en Jésus-Christ, parce que c'est maintenant qu'on découvre le nom de celui qui nous a sauvés. Jésus-Christ. Jésus, sauveur. Christ, celui qui est loin de Dieu pour être notre sauveur, le Messie pour les Juifs. Nous sommes assis en Jésus-Christ afin de montrer, démonstration du moment où Paul écrivait aux Éphésiens, afin de nous montrer, nous qui vivons au 21e siècle après Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Alors là, c'est une surenchère. Afin de montrer l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ouais. C'est vrai que c'est des superlatifs tout ça. Hein. Et vous avez remarqué que Paul, c'est sa spécialité, hein, superviser grâce sur grâce, hein, beaucoup de choses qui nous sont présentées de cette manière. Parce que c'est une démonstration, c'est un témoignage. Nous sommes, par notre foi en Jésus-Christ, sauvés, pardonnés, de nouvelles créatures, nous sommes un témoignage de Dieu vivant aux yeux du monde qui nous environne. Alors le monde ne veut peut-être pas en entendre parler, mais en tous les cas, nous sommes quand même un témoignage vivant, un témoignage qui se renouvelle de génération en génération, de siècle en siècle. Et ça ne s'est jamais arrêté depuis 21 siècles. Parce que ça aurait pu disparaître, hein, le christianisme. Et puis le message de Jésus, et puis même le nom de Jésus, c'est le seul qui subsiste, et d'une manière où nous le comprenons, apportant la vie. Hein. Alors, l'infinie richesse, qu'est-ce que l'on peut dire, hein? L'infini, est-ce que l'on peut comprendre? C'est insaisissable, hein. Déjà, le mot richesse est un mot fort. On ne connaît pas les limites et les aboutissants, naturellement. Mais c'est quelque chose qui s'accorde avec ce qui vient ensuite. Richesse de sa grâce. C'est la plus belle des choses qu'un homme puisse obtenir, la grâce de Dieu. On parlait de condamnation, vous étiez mort. Maintenant, on parle du contraire de la condamnation. C'est celui qui est coupable, mais qui ne sera pas puni, qui ne sera pas condamné, parce qu'on lui remet sa peine. Ça s'appelle la justification. Ouais. Ça s'appelle que finalement, même si nous ne méritons pas, même si nous méritons le châtiment et la mort, eh bien Dieu dit non. Non, non, c'est fini. En Jésus-Christ, maintenant, je regarde ces hommes et ces femmes comme étant blancs, comme étant purs, comme étant lavés de tout péché. C'est la grâce. Dans nos démocraties, il y a des gens qui sont condamnés à mort, et puis il y a des recours, il y a des pourvois, qui fait qu'à un moment donné, quand on a un doute, ou par faveur, je ne sais pas, eh bien, on vient déposer un dossier, et puis alors on demande à ce moment au roi ou au président, celui qui a l'autorité suprême, enfin humaine, eh bien, de faire grâce. Puis il y en a qui ont obtenu la grâce. Ça doit faire un drôle d'effet quand vous savez que on va vous couper la tête, ça c'est un peu la spécialité de la France, mais que finalement on vient vous dire au petit matin, non, on vient pas pour vous passer à l'échafaud, mais on vient pour vous dire maintenant, aujourd'hui, à cet instant, on va vous remettre votre peine et vous pouvez partir, comme si vous n'aviez rien fait. C'est formidable. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Nous étions morts, mais maintenant nous avons reçu la grâce d'être libres. Ouais, c'est la liberté qui nous est donnée. Alors qu'est-ce que l'on peut avoir comme sentiment vis-à-vis de celui qui nous a fait grâce? On l'oublie? On le méprise en disant, bon, tout ça, c'était une aventure, je m'en suis bien tiré, hein. Parce qu'il y en a un qui a dû dire ça, c'est Barabbas. Lui, il a dû dire, dis donc, est-ce que j'ai échappé belle, hein. Puis, en plus, c'était assez culpabilisant, parce que finalement, celui qui est mort à sa place, il était innocent. Encore quand c'est un autre coupable, on se dit, ben voilà, on l'a échappé belle. Mais là, c'était un innocent. Et là, nous arrivons à ce texte que Luther avait mis en valeur. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Vous le croyez? Ouais, on est sauvé parce que Dieu nous a fait grâce. Et on va voir la suite. C'est pas pour d'autres raisons. C'est pas parce qu'il y a autre chose. C'est parce que tout simplement, eh bien, il nous est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est pas nos élucubrations, ce n'est pas nos gesticulations, ce n'est pas de faire comme certaines religions non chrétiennes, païennes, qui font des efforts énormes, qui essaient de se mortifier, qui pensent que peut-être, eh bien, là, il faut véritablement rattraper le mal que l'on a commis, il faut se racheter, il faut faire toutes sortes de choses, ou la réincarnation, de vie en vie, de vie nouvelle, etc., etc. Ça, ce sont des doctrines du prince de l'air, hein. Ah oui, ces doctrines qui sont absolument néfastes, hein, toxiques. Alors, par le moyen de la foi. Je suis sauvé parce que je crois en Jésus-Christ. Est-ce que ça suffit? Ça suffit? Comment c'est tard? Ça suffit! C'est parce que je crois en Jésus-Christ que quand quelqu'un vient, entend l'évangile et dit « Mais Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi mes péchés », mais il est sauvé à l'instant. Et on ne remet pas les choses en cause. Nous, quelquefois, nous nous compliquons tellement la vie. Nous nous laissons transpercer par toutes sortes de suggestions que l'ennemi est en train de nous mettre sur le dos en disant mais ceci, cela, etc., etc. Ne discutez jamais avec lui parce qu'il va vous entraîner bien loin, hein. C'est la foi qui nous sauve. Seigneur, je suis sauvé. Quand bien même, eh bien, on le dit au dernier moment de notre vie, mais on sera sauvé. C'est Jésus, tout simplement. C'est notre confiance. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est une confiance. C'est un abandon. Le brigand à la croix du calvaire, ben, il n'a pas été très loin. On peut pas dire qu'il avait une longue vie chrétienne. Hein. C'était très vite pour lui. Hein. Une histoire de quelques heures, hein, même pas. Et il est mort, mais Jésus lui dit, mais écoutez, ces paroles, elles sont formidables. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Moi, je dis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Devant des paroles comme ça, moi, je pense qu'il y a, on peut pleurer, mais pleurer de joie. Quand on chante des cantiques, où il nous est parlé de la grâce de Dieu, il nous est parlé de saisir par la foi le salut en Jésus-Christ, que nos péchés sont pardonnés, que nous sommes de nouvelles créatures. Mais c'est des choses extraordinaires. C'est dommage, on n'écrit plus de beaux cantiques maintenant, comme il en a été écrit dans le passé, hein. C'est vrai. De se réjouir, parce qu'il y a une joie finalement derrière, et c'est la joie du Saint-Esprit. Vous savez qu'il y a plus de joie pour un seul prêcheur qui se repent que 99 qui se disent « Oh, moi, il n'y a pas de problème, hein, je suis quand même le meilleur, le plus beau, le plus… Bon. » Mais voilà, il risque de passer à côté. Hein. Ah oui, c'est la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. La grâce, la foi et le don. On va recevoir beaucoup de cadeaux, là, d'ici une quinzaine de jours. Vous avez déjà fait votre liste, non? Non? Ouais, il serait peut-être temps d'y penser, hein. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais attendre, moi? Qu'est-ce que je pourrais avoir? Quelque chose d'original, quand même. Non, et puis je vois Myriam qui me fait non. Je vis difficilement, hein, je tiens à vous le dire. Eh oui, un cadeau. Ça vous fait plaisir quand vous recevez un cadeau? Oh oui. Hein? Vous le prenez? Bah oui, vous le prenez. Alors quelqu'un vient chez vous, moi je dis toujours, je répète, hein, mais quelqu'un qui vient chez vous, il vous apporte des belles fleurs, et vous lui dites, vous allez voir la tête qu'il va faire. Combien je te dois? Ne faites jamais ça. C'est une suprême offense pour quelqu'un qui vient de tout son cœur vous offrir quelque chose, en disant, combien je te dois, je vais chercher mon porte-monnaie, je te dis. Eh bien, avec le Seigneur, on fait ça quelquefois. Il nous fait des cadeaux et on veut le payer. On veut le rembourser. Eh oui. Alors, cela ne vient pas de vous. On n'y pourra rien. C'est le don de Dieu. Réjouissons-nous. Mais réjouissons-nous dans les choses les plus élémentaires, dans les choses les plus naturelles de la vie. Mais vous savez que tous les jours, le Seigneur nous fait des cadeaux tous les jours. Il nous a dit qu'il renouvelle ses bienfaits chaque matin pour ceux qui le craignent. Regardez un petit peu. Regardez. Toutes sortes de choses, si nous savons les observer, eh bien, nous voyons que il y a quand même des bonnes choses dans la vie, non? Ouais. Même quelquefois au cœur même de la souffrance, de nos peines et de nos chagrins, quelquefois il y a comme un souffle qui passe, un vent, comme une présence. Et là, alors que nous sommes mal, et réellement mal, hein, c'est pas du cinéma, hein, et que nous sentons quelquefois dans notre cœur quelque chose qui nous apaise, un chant. Moi, ça m'est arrivé souvent, hein, dans des moments difficiles, même dans des insomnies. Je me disais, c'est difficile. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui vient. Et j'ai passé toute la nuit avec ce petit chant qui revenait continuellement. Et ça rend heureux, hein. Ouais. Ou une parole que vous trouvez dans la Bible. Vous trouvez ça? Qu'est-ce que cette parole? Je l'ai lue 100 fois. Mais aujourd'hui, ça me fait un bien que je n'avais pas compris. Ah oui, c'est quelque chose. Ou un ami qui va venir vous voir, un frère ou une sœur, et qui va venir vous voir et qui va vous donner une parole. Et elle s'en apercevra même pas que c'est une parole de Dieu. Mais vous allez savoir que c'est une parole de Dieu. Eh oui, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On a bâti le christianisme sur les bonnes œuvres, sur les mérites, sur l'effort humain, sur ce que nous pouvions mériter de dire, eh bien Seigneur, tu dois être content de moi parce que, voilà. Eh non, non, non. Ce n'est pas par les œuvres. Parce que là, on se bâtit un ciel qui n'est pas le ciel de Dieu. C'est pas le ciel de Dieu, celui-ci. C'est le ciel des hommes pour être bien vu, pour avoir, soi-disant, une place dans ce monde, dans ce ciel humain, dans ce ciel religieux. Mais ça ne sert à rien. Alors la concurrence, après, je peux vous dire. À celui qui fera le mieux, à celui qui donnera le plus, à celui qui surplantera l'autre, c'est quoi? C'est de la compétition, tout ça. C'est affreux, tout ça. Comment peut-on manipuler le salut des âmes au point d'en arriver là, hein? Car nous sommes son ouvrage. Ouais. Vous avez remarqué qu'il y a deux mots qui se ressemblent. Le mot « œuvre » et le mot « ouvrage » dans le texte. Alors, « niet », je parle un peu russe, hein, ne soyez pas inquiets. C'est presque l'heure aujourd'hui. Hein. Toujours est-il que les œuvres, même prétendument bonnes, sont pas les œuvres que Dieu remarque. Et ça ne le satisfait pas. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Par contre, nous sommes devenus son ouvrage. Nous sommes devenus son ouvrage à partir du moment où nous avons entendu que nous étions perdus, que nous étions morts à cause de nos péchés, que nous étions sous la puissance de ce prince de l'air, que nous avons véritablement découvert que par la foi nous pouvions être sauvés, que notre nature a été changée. Mais c'est l'ouvrage de Dieu tout ça. Ce que nous sommes aujourd'hui, enfants de Dieu, nous avons un Père et nous pouvons lui dire Père, non pas mon Dieu, mais Père. Eh bien, c'est son ouvrage. Du début jusqu'à la fin, Dieu nous poursuit, je dirais. Il nous conduit, il nous montre la voie et nous sommes son ouvrage parce que nous avons été créés en Jésus-Christ. Créés en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Être à sa ressemblance. Vivre comme il a vécu, parler comme il a parlé, aimer comme il a aimé, avec les sentiments qui étaient les siens, à travers toute la bonté de Dieu qui émanait à travers la personne de Jésus. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ, mais en le représentant dans ce qu'il est, lui, dans ce qu'il a été parmi les hommes, supportant, vivant dans l'opprobre, dans toutes sortes de choses, mais toujours rayonnant de cet amour. Parce que c'est ça, hein. C'est le rayonnement de l'amour que nous sommes là à porter. C'est pas de dire, eh bien, moi je suis un bon chrétien, je fais ceci, je donne cela, etc. Ça n'a rien à, ça rentre pas en ligne de compte. Mais par contre, un chrétien transformé, c'est celui qui porte les fruits. Et les fruits, c'est Jésus. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, etc., etc. C'est ça, hein. C'est pas facile à acquérir, mais c'est pas nous qui allons les acquérir. On peut seulement les y aspirer, et c'est le Seigneur qui va les mettre dans notre cœur. Et c'est ça, quand un homme, à la fin de sa vie, accomplit, et que là, il arrive, finalement, le plus près de la ressemblance de Jésus, et que les gens disent, mais oui, il portait vraiment ces fruits-là. C'est pas les dons. C'est pas parce que je parle en langue, parce que je vais révéler toutes sortes de choses. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Ça ne rentre pas en ligne de compte avec notre tempérament et notre caractère qui serait changé. Ça, quelquefois, ça a été surtout un désaveu. Ceux qui ont reçu beaucoup de choses et qui, quelque part, ont oublié des fruits, ça n'a pas toujours été un bon témoignage pour le christianisme, hein, mais ressembler à Jésus. Être ce Jésus du sermon sur la montagne. Jésus des béatitudes. Jésus, lorsque nous le voyons, auprès des hommes et des femmes qui souffrent et leur apportant le témoignage que Dieu les aime dans leur situation et que Dieu est venu aussi pour changer leur vie. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Alors c'est pareil, les œuvres, là elles sont bien marquées bonnes. Alors on peut mettre bonnes avant ou après œuvres, peu importe, ça change rien. Pour des bonnes œuvres, alors celles-ci ce sont des œuvres qui ont été sanctifiées. Ce sont des œuvres de l'esprit, ce ne sont pas des œuvres de la chair. Parce qu'elles sont mortes aussi les œuvres de la chair, vous connaissez dans Hébreux, hein, c'est marqué. Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Vous cherchez à faire du travail dans l'œuvre de Dieu parce que nous sommes appelés à servir. Et vous allez venir et vous allez dire, Seigneur, j'ai préparé un plan pour mon avenir. Je te demande seulement que moi j'ai déjà tout mon programme de fait, je te demande simplement de donner sa signature et puis moi je m'occupe du reste. Pas comme ça que ça va. Je vais donner un message sur la page blanche. Je ne sais pas si vous en souvenez. Et j'avais dit non, vous venez avec une page blanche, vous mettez votre signature et c'est Dieu qui va la remplir. Bah oui, parce que lui, il y mettra ce qu'il voudra. Et il y mettra ce que nous serons capables de faire, parce qu'il nous connaît mieux que nous le connaissons. Parce que quelquefois on dit, Seigneur, tu sais, je suis sauvé, maintenant tu fais de moi un grand pasteur. Oh oui, je veux au moins l'international. Quand même, autant qu'à faire, on va pas se limiter. Hein, j'aurai des voyages en avion, j'irai dans les hôtels, etc., etc. Tu peux me l'accorder quand même, je suis bien. Alors, bon, mais c'est pas ça. Souvent avec le Seigneur, tu me fais confiance, tu marches, et moi je t'accompagne, tu me suis tout simplement. C'est lui qui va remplir le programme de notre vie, et les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et on va pas le savoir à l'avance, on va pas le savoir là, hein, on va marcher, on va s'engager dans la foi, et on va voir les choses se réaliser. Seigneur, moi je voudrais bien que et ceci et cela dans ma vie. J'ai à cœur ceci et cela. Puis quelquefois, ça se passe pas du tout de la même manière. Hein. Et Dieu nous conduit comme Pierre. Hein. On t'emmènera où tu ne veux pas aller quand tu seras vieux. Quand tu es jeune, tu fais ce que tu veux. Mais tu verras. Il y a des choses que je me suis souvent posé la question. Je me suis dit, ben voilà. Je me suis quelquefois imaginé, mais avec vraiment beaucoup de sincérité, que ben voilà, je suis à Saint-Nazaire aujourd'hui, mais j'avais jamais pensé que ça pouvait arriver. Hein. Que bon, on serait resté pendant jusqu'à la retraite et dans d'autres autre part, ouais. Mais ça s'est jamais passé. Mais bon, faut être souple dans ça. Parce que vous savez, quelquefois, quand on veut rester dans un endroit où c'est plus notre place, où véritablement nous avons rempli notre mission, ça nous déchire le cœur. Hein. Ça peut être un déchirement profond. Mais quand après, on a cédé, on a dit Seigneur, eh bien voilà, t'as préparé de bonnes œuvres ailleurs. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas ce qu'il en sera. Je ne sais pas ce que je suis capable de faire, mais toi, tu vas me conduire. Et quand on regarde derrière un petit peu avec le temps qui a passé, on se dit, Seigneur, c'était quand même la meilleure des choses. Aujourd'hui, on peut te bénir parce que on était heureux. Ça va? Ouais. Alors, pas de résistance. On est souple. On est flexible. Et on est joyeux de ce qu'on ne sait pas encore. Et Dieu le sait. Votre Père sait que vous en avez besoin. Il sait ce qu'il vous faut. On l'a chanté. On pourra le rechanter tout à l'heure parce que vraiment il est beau. Le petit cantique que tu as chanté tout à l'heure. Tu veux bien? Mon Dieu, c'est si bien. Hein? Il est vraiment beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va le chanter. On va prier là, quelques instants. Seigneur, nous te remercions parce qu'il y a des pages, mais toutes les pages de ta parole sont merveilleuses. Elles sont belles. Oui, Seigneur, c'est un rafraîchissement d'entendre des paroles si simples. Parce que nous n'avons pas fait de la haute théologie cet après-midi. Mais nous avons tout simplement ouvert ta parole et pris le texte. Ouvert, Père éternel, eh bien, c'est ces mots, ces phrases, et ainsi de nous rappeler, Seigneur, que notre privilège, il est immense. Oui, nous pouvons parler de l'infinie bonté de Dieu. Nous pouvons parler de l'infinie miséricorde de notre Dieu. Nous pouvons parler de cette grâce infinie. Nous pouvons parler de ce don infini de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons simplement te dire, oui, Seigneur Jésus, aide-moi vraiment à te ressembler le plus possible. Parce que nous étions morts. Tu nous as rendus à la vie. Et aujourd'hui, Seigneur, dans notre pèlerinage sur la terre, nous avons des œuvres préparées à l'avance pour que nous les accomplissions. Mais nous savons, Père éternel, que tu nous réserves le meilleur. Non pas, Seigneur, dans les conditions de ce monde d'aujourd'hui, mais là où nous serons semblables à Jésus, dans la dimension spirituelle et éternelle. Au nom de Christ, merci Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.